Je vais faire un point sur la question des écarts entre les effets attendus et les effets produits en matière de participation. Je vais le faire à double titre, à la fois comme professeur au Conservatoire national des arts et métiers, et où j'étais jusqu'à il y a peu de temps titulaire de la chaire de travail social et d'intervention sociale, mais également en tant qu'animateur du groupe Participation dans le cadre du Haut Conseil du Travail Social et également dans celui du Haut Conseil de la Santé Publique. Alors, d'abord, je dois dire que l'existence des écarts, c'est souvent ce qui nous est renvoyé à propos de participation ou à propos d'autres thématiques. Cela nous évoque, notamment, là je cite une historienne qui rappelle comment les valeurs héritées de la Révolution française ont eu parfois beaucoup de mal à trouver une traduction concrète. Et vous voyez la façon dont elle a formulé cela dans son titre en parlant d'un culte des droits de l'homme renvoie à une certaine ambiguïté sur la question de la participation. Comme on dit souvent dans le secteur professionnel, tout ça ce sont des mots, mais la réalité est quand même bien, bien différente. De ce point de vue, on est dans une situation que l'on retrouve lorsque l'on parle du non-recours ou du renoncement au droit. Je fais allusion aux travaux de Philippe Varin et d'autres, et qui montrent que, en dehors de l'affirmation des droits des personnes et la façon dont les acteurs s'approprient ces droits, il y a des écarts parfois très importants. Et surtout, si j'évoque cela, c'est pour souligner le fait que, en matière de participation, il n'existe pas véritablement d'évaluation de la participation. Il existe pour les établissements sociaux et médico-sociaux des évaluations internes et externes, des évaluations qui prennent comme référence des recommandations de bonnes pratiques professionnelles, et j'y reviendrai sans doute. Comme vous le savez, il existait, puisque désormais il y a eu un changement qui s'est opéré, mais il existait une agence nationale de l'évaluation sociale et médico-sociale avec des recommandations concernant la participation, qui étaient d'ailleurs définies de manière un peu différente selon les publics considérés. Et en dehors de ce cas de figure-là, en fait, on a une difficulté à se représenter la réalité de la participation. Pour autant, cette thématique, elle est l'occasion de réfléchir un peu sur l'histoire des idées, à la fois dans le secteur social, médico-social et dans celui de la santé. Parfois, on utilise d'ailleurs, les politiques utilisent de plus en plus l'expression de choc de participation, comme on a parlé de choc de simplification, et c'est l'indication d'une rupture, effectivement, dans les attentes et dans notre société. C'est une thématique, les anciens dont nous sommes quelques-uns des représentants ont connu les années 60-70 où le terme de participation était particulièrement mal vu, et je vous renvoie au slogan de 68 en la matière. Il y a eu une redécouverte de cette thématique relativement tardive et qui s'inscrit dans des évolutions sociétales faites d'un besoin de reconnaissance, d'identité, mais aussi un besoin d'affirmation du lien social, de la dimension collective. Et cela a été beaucoup reproché d'ailleurs au travail social d'avoir des approches très individualisées, individualisantes. Et la thématique de la participation, de ce point de vue, elle a à voir avec d'autres thématiques comme celle du développement social, de l'intervention sociale, intérêt collectif, etc. En fait, cela a correspondu aussi à un moment où, à partir notamment du début des années 2000, on a opéré une entrée par les droits pour corriger les crises de légitimité que pouvaient connaître ces secteurs professionnels. Et en fait, on se rappelle d'ailleurs qu'en 2002, une loi importante a affirmé la place de droit de l'usager. Assez rapidement, on s'est interrogé sur la nécessité de ne pas s'enfermer dans des approches strictement juridiques. Et on y reviendra, mais c'est vrai que la participation a donné lieu à la création d'un certain nombre d'instances, à des formes de formalisation, à des aspects très juridiques, qui laissent sentir la question de l'appropriation par les acteurs du changement que cela représente dans la représentation que l'on se fait des personnes. Il ne suffit pas uniquement d'avoir une injonction de réunir un conseil de vie sociale, il faut encore que la participation elle soit reconnue comme quelque chose d'absolument indispensable, et de ce fait, nous passons, en tout cas, je ne sais pas si on peut dire qu'on passe, mais disons qu'on essaie de mettre en relation une solidarité par les droits avec une solidarité d'engagement, même si, encore aujourd'hui, il y a des phénomènes de déni d'humanité. Je renvoie aux travaux, par exemple, de Denise Jodelet dans le champ de la santé mentale, qui avait beaucoup travaillé sur l'accueil dans des familles de malades mentaux, et qui montrait que, malgré ces formes assez ouvertes d'accueil des personnes, eh bien, il y avait encore l'idée d'une espèce de sous-citoyenneté ou de situation encore très, très inégale faite aux personnes, de la même façon que Bronislav Geremek parlait de pauvrophobie. Et donc, il faut se déprendre d'une approche un peu trop angélique en matière de participation, d'abord parce qu'il y a un passif, il y a surtout un passé. Et l'enjeu de la participation, c'est d'abord de corriger la dissymétrie qui s'est instituée dans la relation aux personnes. C'est un point sur lequel, au moment des états généraux du travail social, des groupes ont travaillé, notamment Eve Gardien a participé à cette réflexion. Et à mon sens, il s'est produit un tournant que je vais dater à 2015, dans le champ du travail social, parce que exactement à la même date, deux rapports sont remis à la ministre. Le premier rapport, qui résulte d'une élaboration collective dans le cadre des états généraux du travail social, vous voyez son intitulé, c'est un rapport du groupe Place des usagers, et à la même date, vous avez un autre rapport, un peu plus approfondi sans doute, qui a pour thématique la refondation du rapport aux personnes, et le sous-titre qui avait été suggéré par un allocataire du revenu social d'activité, et qu'on a repris, merci de ne plus nous appeler usagers, et c'était l'indication d'une difficulté, à la fois une difficulté sémantique, une difficulté dans la représentation que l'on avait des personnes. Et bon, on peut dire que ces deux rapports continuent de faire l'objet de débats un peu vifs, mais qui montrent que sur cette question de terminologie, il se joue beaucoup de représentation des personnes. Pas l'occasion de développer ça, mais c'est sûr qu'entre des patients qui demandent à s'appeler usagers, comme nous avait objecté Advocacy France, par exemple, et des usagers qui ne voulaient plus du tout être appelés ni patients, et éventuellement personne en situation, dans ce deuxième rapport qui a à peu près 30 pages sur les questions de vocabulaire, je vous y renvoie, et on n'a évidemment pas fait de fatwa sur le terme d'usager, on a simplement dit on appelle les personnes comme elles souhaitent elles-mêmes se faire appeler, ce qui était déjà aussi l'indication du fait qu'en cas de dissensus, de désaccord entre les professionnels sur des questions de vocabulaire, finalement, ce n'était pas assez professionnel de trancher cette affaire. Il y avait un autre aspect aussi qui est ressorti de ces rapports, c'est cette idée de sortir non seulement de la référence à l'usager, mais du ciblage. Parce qu'en fait, ce qui se joue, pas le temps évidemment de développer, ça a été évoqué ce matin assez largement, c'est de sortir d'une approche individualisante, où l'on parle de situation de handicap, on parle d'inclusion, on parle de développement social, et puis surtout quelque chose qui a fait que le groupe qui a rédigé ce rapport a été très mal perçu, puisqu'il a défendu la position de la nécessité d'avoir des pratiques en retrait, Et beaucoup de professionnels se sont insurgés en disant, au moment où on demande des moyens supplémentaires pour développer l'action sociale et médico-sociale, vous, vous êtes en train de dire qu'il faut faire un pas en arrière. C'était une façon de dire que le rapport aux personnes, il doit interroger une distance qui doit se construire dans le cadre de projets, et en tout cas qu'il faut se prémunir d'un interventionnisme excessif. On retrouve ça avec cette notion de lâcher prise du DPA, donc il veut dire le développement du pouvoir d'agir. Et à ce propos, on remarquera que dans la façon de formuler les choses, on passe de la notion de participation à la notion de développement du pouvoir d'agir, et qu'il y a une évolution sur laquelle il y aurait besoin de revenir. L'autre point aussi, du point de vue des attentes, c'est il ne suffit pas de favoriser la participation dans une relation, par exemple une relation éducative ou une relation en face à face, mais cela suppose de rejoindre des lieux de décision. Et le deuxième rapport qui a été consacré à la participation des personnes accompagnées, donc on va dire des usagers avec plein de guillemets, aux instances de gouvernance, c'est un changement qui est en train de se produire, puisque désormais la position officielle, on verra ce que ça donne, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'instance de concertation au niveau national dans laquelle il y ait moins de 50% de personnes directement concernées. Et c'est un des éléments qui explique pourquoi les décrets tardent à sortir, à mon sens, pour le Conseil national de lutte contre les exclusions ou pour le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, il faut encore trouver les personnes qui vont pouvoir représenter. Alors j'évoque ici d'ailleurs le fait que pour la première fois, on a des rapports qui font l'objet de versions simplifiées, comme on dit en langue facile à lire et à comprendre, et qui sont portées aussi bien dans le champ du handicap, du situation de handicap intellectuel par l'association Nous Aussi, que par le Conseil national des personnes accompagnées. En fait, il y a également un changement très important qui a à voir avec le colloque expert, c'est la nécessité de sortir d'une conception restrictive de l'expertise. Pendant longtemps, quand on a parlé d'expertise, aussi bien dans le champ de la santé que dans le secteur social, on l'a fait finalement avec le souci de valoriser les professionnels. Et par exemple, Jean-Christophe Barban utilise l'expression d'intervention sociale d'expertise. Il a fait une typologie d'expertise dans sa thèse qui a été soutenue et publiée en 2011, dans laquelle il n'est pas du tout question d'expertise des personnes accompagnées. Et c'est un peu la même chose pour Régis Robin, quand il écrit également un ouvrage. Lui, il est assistant de service social en psychiatrie de son côté, et il a également toujours cette idée de la valorisation des capacités des professionnels. Alors ça, c'est les ruptures qui se produisent dans les attentes. Maintenant, les effets produits, quels sont-ils ? Le premier effet produit, c'est l'acceptation du principe de la participation. En fait, on peut dire que les autorités installe en août 2015, suite aux deux rapports, pour la première fois, un groupe de travail sur la participation, ce qui est assez nouveau. Et puis, il y a cette idée d'une montée en charge progressive qui fait qu'on va distinguer, alors il existe plusieurs typologies de la participation, je reprends une espèce de synthèse de ces typologies où on va distinguer la participation individuelle, une participation plus collective avec notamment le rôle des associations, une participation institutionnelle avec les conseils de la vie sociale, et puis un peu allusion à Joël Zask, une participation contributive où là on va considérer que les personnes que l'on accompagne sont aussi des personnes ressources. Ce qui veut dire que là, on a l'affirmation d'une logique capacitaire. Mon expression n'est pas très agréable, mais très concrètement, et ça aussi, ça a été évoqué ce matin, par exemple, l'initiative prise par Catherine Tourette-Turgis de créer une université des patients en considérant que quelqu'un qui a été hospitalisé ou soigné sur une longue durée a acquis des capacités, a acquis des compétences surtout, par exemple, dire des compétences quasiment managériales. Si vous voulez savoir comment il faut coordonner le travail d'une équipe pluridisciplinaire, ben vous pouvez me demander à moi, parce que moi, j'ai vu pendant 25 ans des personnes qui sont intervenues à mes côtés, avec quelque chose aussi qui a joué un rôle important, c'est à partir de 2002, l'institution de la validation des acquis de l'expérience, la VAE, qui va être le moyen, finalement, de transformer la reconnaissance de l'expérience des personnes en quelque chose qui va pouvoir aller jusqu'à la certification, jusqu'à la diplomation. C'est ce qu'on va retrouver d'ailleurs, notamment dans le champ de l'aide par le travail, avec le mouvement différent et compétent, avec aussi tout ce qui peut s'écrire concernant le développement du pouvoir d'agir, la valorisation des rôles sociaux. Il y a une multitude d'initiatives actuellement sur la participation. Je citerai, parce que ce n'est pas sur les diapos, mais le mouvement Power Us, qui a une à dimension internationale. Il y a Associons nos savoirs, qui est plutôt impulsé par une fédération dans le médico-social. Il y a également Unaforis, qui est la fédération qui rassemble tous les centres de formation au travail social. Et on pourrait comme ça allonger la liste. En fait, le fait nouveau, c'est la découverte par les Français de quelque chose dont on avait la trace aussi dans certains travaux, et notamment cette reconnaissance des savoirs d'expérience, elle va parfois très loin. Elle va, par exemple, avec le livre d'Angel et Munger, à cette idée que, finalement, les personnes handicapées non seulement peuvent témoigner de leur parcours, non seulement ils vont faire des récits, mais qu'il y a des leçons à tirer de ces récits. Alors bien sûr, ce sont des expériences individuelles, mais en l'occurrence, ce que montre cet ouvrage, c'est comment il y a eu une contribution effective à la politique du handicap, notamment aux États-Unis, et ça c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. Un autre élément sur les effets produits, quelque chose aussi qu'on n'avait même pas imaginé. Vous savez que le travail social, on peut situer son origine à la fin du 19e siècle, mais n'avait pas de définition. Il faut attendre le décret du 6 mai 2017 pour intégrer une définition du travail social dans le Code de l'action sociale et des familles. Et vous voyez, il y a deux diapos ici. La première, j'ai mis en gras le mot participation, donc c'est devenu vraiment consubstantiel à l'exercice du travail social. Mais surtout, le point important, parce que en fait, les Français ont envisagé à partir de 2014 de traduire une définition du travail social qui avait été adoptée à Melbourne en 2014, et finalement ne se sont pas contentés de la traduire, mais ils ont utilisé les apports notamment de la thématique portée par ATD Carmonde sur le croisement des savoirs, et désormais, dans les textes officiels, dans le code, il y a cette idée que le travail social repose sur trois types de savoirs, des savoirs universitaires, académiques, des savoirs pratiques et théoriques des professionnels, et des savoirs issus de l'expérience des personnes. On peut dire que dans le plan santé mentale de 2011, déjà il y avait la reconnaissance de savoirs pratiques, et qu'il y a des implications très fortes, parce que, et c'est ce qu'on a fait au CNAM dans le cadre de la création d'un séminaire épistémologique. D'ailleurs, ça fait l'objet d'une nouvelle convention signée cette fois par le CNRS et qui reprend cette thématique du croisement des savoirs, parce qu'une fois qu'on a affirmé le principe, il faut voir concrètement ce que ça donne, comment c'est possible. Et disons qu'on a essayé de voir comment ces trois formes de savoir très concrètement pouvaient s'illustrer. Cela suppose de mettre en avant la notion d'intelligence collective, et actuellement nous sommes en train de créer une plateforme collaborative pour des recherches participatives en croisement des savoirs, et je pense que d'ici quelques semaines ou quelques mois vous aurez les outils informatiques pour vous y référer. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que quand on a voulu avec ATD Carmonde donner des exemples et inviter des chercheurs et des professionnels pour parler avec des personnes en situation de grande pauvreté de recherches que l'on pouvait faire, les seuls exemples qu'on a trouvés, c'était des exemples qui venaient dans le champ de la protection de l'enfance. Et ça a créé une espèce de malaise en disant, mais on affirme quelque chose sur la thématique de la pauvreté et de la précarité, mais concrètement, donc, ça a été plusieurs recherches, là je cite celle-ci, où vous voyez qu'il y a eu association à une équipe de recherche de jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance, qui ont été formés pour faire partie intégrante d'une équipe de recherche pour pouvoir non seulement entrer en contact, faciliter la parole, mais également travailler à la production de connaissances avec ces jeunes. Un autre exemple que je peux donner ici, c'est aussi une recherche qui s'est menée avec l'Université populaire, donc plutôt ATD Quart-Monde, et l'Observatoire du non-recours au droit avec Philippe Varin. Ça a été, on peut dire, les points de départ de cette réflexion. Nos amis québécois nous ont beaucoup aidés, puisqu'on a travaillé avec l'Université de Sherbrooke, et vous voyez que, par exemple, dans cette étude portée par Paul Morin, Jeanne Desmoulins et Fabienne Lagueuil, il y avait également cette référence à la notion de savoir d'usage. Pour amorcer ma conclusion, me rappeler, je suis pas là pour rappeler l'heure, quand même embêtant. Troisième point, donc j'ai fait un point sur les effets attendus, un point sur les effets produits, et puis il y a quand même un certain nombre de difficultés. Il y a des difficultés pratiques. Tout le monde, c'est une banalité, peut se plaindre, à tort ou à raison, d'un manque de moyens pour que la participation existe. Et c'est vrai que la participation, elle suppose une logistique, elle suppose de payer des frais de déplacement, elle suppose un certain nombre de choses. Et il y a certains points noirs, par exemple, lorsqu'on fait intervenir dans une formation, une formation initiale ou continue de travailleurs sociaux des personnes dites accompagnées ou aidées, ça suppose de les rémunérer au même titre que les autres intervenants, ce qui tombe pas sous le sens. Déjà, ça pose un problème, on va dire, philosophique, idéologique, théorique, mais en plus, ça pose un problème pratique parce que vous avez l'URSSAF, etc., qui est derrière, et que ces personnes-là n'ont pas d'employeur principal pour justifier les vacations. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est qu'il n'y a pas que des difficultés pratiques, il y a des difficultés de conception. Et une des difficultés de conception, c'est par exemple le fait qu'on a en France une construction très, très segmentée, très émiettée. Bon, c'est une banalité de le dire, vous le savez, dans nos dispositifs. Mais ce qui a été assez difficile pour avoir été membre du Conseil scientifique de l'Agence nationale de l'évaluation sociale et médico-sociale, on n'a jamais réussi à faire passer cette idée que ce n'était pas logique qu'on ait une recommandation de bonne pratique professionnelle sur la participation dans le champ de la dictologie, la participation dans le champ de l'inclusion sociale, la participation en protection de l'enfance, la participation dans le champ du handicap. Ça, ça ne rentrait pas dans les cases mentales. Et actuellement, maintenant que l'ex-ANESM a été absorbé par la Haute Autorité de Santé, il y a un travail qui est engagé pour avoir des recommandations de pratiques professionnelles qui soient transversales, au motif que les frontières entre les publics ne tiennent plus comme on a cru qu'elles tenaient à l'époque où on se référait plutôt aux nosographies médicales pour penser l'architecture du secteur social et médico-social. Et puis, il y a un autre problème, c'est la question de la représentation et de la représentativité qui est un problème qui touche au fondement même de la démocratie, donc ce n'est pas propre à la question de la participation, etc. On a actuellement, alors c'est quelque chose que vous allez voir, ça devrait être déjà sur Internet depuis le mois de juin 2019, c'est toujours pas sur le site du ministère et du Haut Conseil du Travail Social, il y a un outil qui existe et qui est en trois parties et qui essaie de clarifier des conditions pratiques à la fois parce que la participation, ça se prépare, ça s'organise, hein, on ne peut pas avoir un point de vue purement idéologique sur la participation, donc il y a, sans faire d'excès de méthodologie, il y a un certain nombre d'étapes auxquelles il faut se référer. Il faut bien sûr qu'on suive le déroulement du processus, et là, les gens ont besoin peut-être d'être accompagnés. Et comment on préserve leur autonomie tout en étant accompagné? La question de l'accompagnement est une question centrale pour traiter de la question de la participation. C'est la logistique, c'est la préparation, c'est savoir animer. C'est en fait quelque chose qui n'est pas sur la diapo, c'est aussi créer les conditions de confiance. Parce que je faisais le lien avec le non-recours au droit. Déjà, Philippe Varin avait souligné l'importance de la confiance. Et ça, c'est le socle, on peut dire, de la participation. Et alors, on avait fait une troisième partie, et qui, évidemment, aurait été l'occasion de pérenniser, de prolonger le travail du groupe en disant, ben, nous, on a fini notre mandat en tant que groupe de travail, mais on est prêt à créer une espèce d'observatoire de la participation. Et donc, on est allé sur ce terrain-là. Silence radio, on attend ce qui se passe. Conclusion, tout cela, ça pose un certain nombre de questions de positionnement pour les professionnels, que ce soit des soignants ou des travailleurs sociaux. D'abord parce que ça percute les cultures professionnelles. Ça, c'est parce que pourquoi ça les percute ? Parce que ces cultures professionnelles sont très adossées à des représentations sociales qui, d'ailleurs, ne sont pas nécessairement négatives, mais qui peuvent être faites aussi de compassion ou de certaines façons de se représenter l'étendue des compétences des personnes. Dans la minute, je voudrais juste évoquer le fait que j'ai fait partie d'une équipe qui a travaillé, une équipe de recherche qui avait travaillé sur la consommation des médicaments psychotropes en psychiatrie. On avait fait un questionnaire pour les infirmiers, un questionnaire pour les médecins, un questionnaire pour les pharmaciens, etc. Est arrivée la question, est-ce qu'on fait un questionnaire pour les malades ? Et la réponse unanime a été, mais non, ils vont nous raconter que des bêtises. Et donc, on ne l'a pas fait. Vous voyez, ça, c'était en 89. Et rétrospectivement, je me dis, mais ça serait impensable aujourd'hui qu'on s'entende nous-mêmes dire une ânerie de ce genre. Alors, du coup, évidemment, ça pose le problème de l'apport de la formation. Bien sûr, la question des moyens, parce que c'est toujours très présent. Et puis, il y a un autre élément qui est quand même assez important. Et là, tout à l'heure, on parlait du continuum. Il y a un continuum aussi entre une approche professionnelle, très technique, et une approche plutôt personnelle qui suppose des qualités humaines, qui suppose des relations de confiance et donc de l'engagement personnel. Voilà, je vous remercie.